Mon cher Makar Alexeyevitch, non, mon ami, non, je ne puis continuer à vivre parmi vous. J'ai changé d'avis et j'ai compris que j'agirais très mal en refusant un emploi si avantageux. J'y trouverais à tout le moins un morceau de pain assuré. Je me donnerais de la peine, je saurais gagner la sympathie de ces étrangers, je m'efforcerais même de modifier mon caractère si c'était nécessaire. Il est certes dur et douloureux de vivre chez des étrangers, de dépendre de leur bienveillance, de se contraindre et de cacher ses sentiments, mais le Seigneur m'aidera. Je ne puis tout de même pas rester une sauvage toute ma vie. Il m'est déjà arrivé de me trouver dans des situations de ce genre. Je m'en souviens, c'était quand j'étais petite et vivais dans un pensionnat. Parfois, je passais tout le dimanche à la maison, à sauter, à gambader, au point que ma mère me grondait certains jours. Mais cela ne me faisait rien. Je me sentais l'âme si gaie, si légère. Mais quand le soir venait, une tristesse mortelle tombait sur moi, car il fallait rentrer au pensionnat pour 9 heures. Et là, tout m'était étranger, tout me semblait froid, sévère. Les gouvernantes se montraient si acariâtres le lundi. Alors mon cœur se serrait douloureusement, l'envie de pleurer me venait. J'allais me cacher dans un coin obscur et j'y versais secrètement des larmes silencieuses, des larmes solitaires que je cachais de crainte qu'on ne me taxe de paresse. Mais ce n'est pas pour cela que je pleurais. Ce n'est pas parce qu'il fallait reprendre le travail et les leçons. Eh bien, j'ai fini par m'y habituer. Je m'y suis si bien habitué que plus tard, lorsque vint le moment de quitter le pensionnat, je pleurais également en prenant congé de mes amis. Je fais mal de vivre à votre charge à vous deux. Cette pensée-là me torture. Je vous le dis ouvertement, parce que je suis toujours franche avec vous. Croyez-vous que je ne remarque pas que Fedora se lève de bonne heure chaque matin pour se mettre à la lessive et qu'elle travaille ensuite jusque tard dans la nuit? Or, ces vieux os ont besoin de repos. Pensez-vous que j'ignore que vous vous ruinez pour moi, que vous sortez jusqu'à vos derniers copecs et les dépensez pour moi? Ce n'est pas avec vos ressources que vous pouvez le faire, mon ami. Vous m'écrivez dans votre lettre que vous vendrez au besoin vos derniers objets afin que je ne manque de rien. Je vous crois, mon ami, je crois en votre bon cœur, mais ce sont là des choses que vous dites maintenant. Actuellement, vous avez des ressources inespérées par suite de la gratification que vous avez reçue, mais qu'en sera-t-il plus tard ? Je suis constamment souffrant, vous le savez bien. Je ne suis pas en état de travailler comme vous, encore que je ne demande pas mieux que de le faire. Et d'ailleurs, je ne trouve pas du travail autant qu'il m'en faudrait. Que me reste-t-il à tenter en ce cas ? Que vais-je devenir ici ? Me morfondre de tristesse en vous voyant travailler tous les deux, mes chers, mes bons amis ? Comment pourrais-je me rendre utile à vous, si peu que ce fût? Et en quoi vous suis-je tellement indispensable, mon ami? Quel bien vous ai-je fait? Je suis seulement attaché à vous de toute mon âme. Je vous aime beaucoup, énormément, de tout mon cœur. Mais mon destin est amer. Je sais aimer, je puis aimer. Et c'est tout, hélas! Car je ne suis pas en mesure de faire le bien moi-même, ni de vous rendre l'appareil pour vos bienfaits. Ne me retenez donc pas davantage. Réfléchissez bien et faites-moi connaître votre dernier mot. Dans cette attente, je demeure votre dévoué, V.D. 1er juillet. Absurde, absurde, Varinka. Tout cela est absurde. Dès qu'on cesse de veiller sur vous, vous vous mettez Dieu sait quoi dans la tête, et vous trouvez alors qu'il y a ceci qui ne va pas, et puis ceci encore et je ne sais quoi. Je vois maintenant que tout cela ne tient pas debout. Que vous faut-il donc? De quoi vous plaignez-vous, ma petite mère? Dites-nous ce qui vous manque ici. On vous aime, vous nous aimez, nous voici tous heureux et contents. Que vous faut-il de plus? Vous imaginez-vous, par contre, ce que serait votre existence chez les étrangers? C'est que vous ne savez pas encore ce que c'est que les étrangers. Sûrement, vous ignorez ce que c'est qu'un étranger. Adressez-vous à moi, je pourrais vous le dire. Je le connais, ma petite mère, l'homme étranger. Oh, je le connais bien. Il m'est arrivé de manger de son pain. Il est méchant, Varinka, méchant. Tellement méchant que ton pauvre petit cœur tout entier y passera. Car il le rongera continuellement de ses reproches, de ses griefs, et puis de son mauvais regard. Chez nous, vous êtes bien, vous êtes au chaud, comme dans un petit nid, à l'abri de tout. En partant, c'est comme si vous nous abandonniez et vous preniez notre vie. Voyons. Mais que deviendrions-nous ici sans vous? Que ferais-je, moi, pauvre vieillard, en ce cas? Vous dites que vous nous êtes utile en rien? Vous, inutile? Comment cela? Non, ma petite mère, réfléchissez vous-même. Comment pourriez-vous ne pas nous être nécessaire? Vous m'êtes très utile, Varinka. Vous avez une influence si bienfaisante sur moi. En ce moment, par exemple, je pense à vous. Il y a de la gaieté dans mon cœur. Certains jours, je vous écris une lettre et j'y mets tout ce que je sens, toute mon âme, à quoi je reçois ensuite de vous une réponse détaillée. Je vous ai acheté une garde-robe, je vous ai fait faire un petit chapeau. Mais parfois, vous me chargez d'une commission et je l'exécute également. Non, non, comment pouvez-vous dire après cela que vous n'êtes pas utile? Mais que ferais-je, moi, sans vous, tout seul, dans ma vieillesse? À quoi serais-je bon encore? Peut-être n'y avez-vous pas songé jusqu'ici, Varinka? Non, non, il faut absolument que vous y réfléchissiez, que vous vous demandiez à quoi sera-t-il utile désormais sans moi? Je me suis habitué à vous, ma chère amie. Qu'adviendra-t-il en ce cas? Je m'en irai vers les rives de la Neva, et c'en sera fini. Oh oui, parfaitement. Voilà comment les choses se passeront, Varinka. Mais que voulez-vous donc que je devienne sans vous? Oh, Varinka, Varinka, ma petite âme. Sans doute souhaitez-vous qu'un charretier m'emmène un de ces jours au cimetière de Volkovo? Qu'une pauvresse ou une mendiante à haillons se traîne derrière mon cercueil, seule à suivre le convoi? Que des hommes jettent quelques pelletées de terre sur moi, pour s'éloigner ensuite, me laissant seul là-bas? C'est péché, péché que de parler ainsi, ma petite mère. C'est un péché, si, si, un péché. Dieu m'en est témoin. Je vous retourne votre livre, mon enfant, chère Varinka. Et si vous désirez, ma bonne petite, savoir ce que je pense de ces récits, je vous dirai que de toute ma vie, je n'avais jamais lu de livre aussi admirable. Je me demande aujourd'hui, ma petite mère, comment j'ai pu vivre jusqu'ici, dans une telle ignorance, imbécile que je suis, que le Seigneur me le pardonne. Qu'ai-je fait? De quelle forêt suis-je sorti? car je ne sais rien, ma petite mère, rien, absolument rien. Je vous le dirai, Marinka, en toute simplicité, je suis un homme sans instruction. J'ai peu lu jusqu'à présent, très peu, autant que rien. J'ai lu le tableau de l'homme, une œuvre profonde. J'ai lu le petit garçon qui joue avec des clochettes et les oiseaux d'Hibiscus, c'est tout. Car je n'ai rien lu d'autre de ma vie. Je viens d'achever maintenant, dans votre livre, le maître de poste. Il faut que je vous le dise, ma petite mère. C'est extraordinaire que l'on puisse vivre en ce monde sans se douter qu'il existe à proximité un livre où toute notre vie se trouve comptée comme par un témoin. Des choses qui étaient demeurées obscures pour moi dans mon passé m'apparurent peu à peu surgir dans ma mémoire à mesure que je lisais ce récit, et je les revoyais et je les comprenais pour la première fois. Et puis, il y a une autre raison encore qui m'a fait aimer votre livre. Il y a des œuvres admirables, certes, mais quelle que soit leur valeur, on a beau les lire, on a beau se retourner les méninges parfois, c'est trop profond, trop intelligent. On n'y comprend rien, nous autres. Moi, par exemple, je l'avoue, j'ai l'esprit obtus. Il a toujours été obtus, d'ailleurs. C'est de naissance. Alors je ne suis pas capable de lire des ouvrages trop graves, trop importants pour moi. Mais ce livre-là, je le lis, et c'est comme si je l'avais écrit moi-même. Comme si l'auteur avait pris, si je puis m'exprimer ainsi, mon propre cœur, tel qu'il est en réalité, et l'avait montré publiquement, le tournant et le retournant de tous les côtés pour le décrire dans tous ses détails, tout comme c'est. Voilà ce que c'est. Et c'est si simple en vérité, si simple, mais oui. Bien sûr, et j'aurais pu en faire autant. Mais pourquoi n'en ferais-je pas autant après tout? Car je sens exactement les mêmes choses. Je les sens comme c'est dit dans le livre. Et il m'est arrivé de me trouver, moi aussi, dans des situations semblables à celles, par exemple, de ce Samson Virin, le malheureux. Car il y en a beaucoup parmi nous, de ces Samson Virin, de ces êtres bons et misérables. Comme c'est habilement décrit. Les larmes ont presque jailli de mes yeux, ma petite mère, quand j'ai lu qu'il a bu l'infortuné pêcheur, au point d'en perdre la mémoire, et que, avec son chagrin amer, il a dormi toute la journée ensuite dans sa pelisse de mouton. Un petit verre pour noyer sa peine quand il se réveille, et il se remet aussitôt à pleurer pitoyablement, s'essuyant les yeux avec ses manches sales, parce qu'il se souvient de sa pauvre petite brebis égarée, de sa fille Dunyacha. Mais non, mais c'est si naturel, si vrai, ça. Relisez-le vous-même. C'est du vrai, sa vie. Je l'ai vu moi-même, car tout cela existe sous mes yeux. Cette Thérèse, par exemple, il ne faut pas chercher bien loin pour trouver des exemples. Celui-ci également, notre pauvre fonctionnaire, lui aussi c'est peut-être un homme comme ce Samson Virin, sauf qu'il ne s'appelle pas comme lui, mais Gorshkov. C'est le sort commun, ma petite mère, et le même malheur peut nous arriver à nous et à moi aussi. Et le comte également, le fier comte, qui demeure sur la perspective Nevski ou sur le quai de la Neva, il pourrait le connaître, ce sort-là. Cela semblera peut-être différent dans son cas, parce que chez eux, enfin chez les gens de son espèce, tout se passe d'une autre façon, sur un ton plus distingué. Mais il deviendra pareil, au fond, car tout peut arriver, et cela pourrait m'advenir à moi aussi. Voilà ce que c'est, ma petite mère, Et vous parlez encore de nous quitter. Je pourrais tomber dans le péché, Varinka, dans le malheur. Vous allez vous perdre vous-même et vous mener à notre perte à la fois, ma chère amie. Oh, mon Alouette, choisissez donc de votre tête mignonne. Chassez ces pensées rebelles et ne me tourmentez plus inutilement. Voyons, mon pauvre petit oisillon, dont les plumes n'ont pas poussé encore, comment ferez-vous pour vous entretenir vous-même, pour vous préserver de la perdition, pour vous défendre contre les méchants? Soyez raisonnable, Varinka, revenez à nous. N'écoutez plus les conseils stupides qu'on vous donne, ne prêtez plus l'oreille à ces balivernes. Mais relisez encore une fois votre livre, relisez-le avec attention. Cela vous fera du bien. J'ai parlé du maître de poste à Rataziaïev. Il m'a répondu que tout cela a vieilli et qu'actuellement on écrit des livres contenant des tableaux et toutes sortes de descriptions. Je dois avouer du reste que je n'ai pas très bien saisi ses explications sur ce point. Il a conclu que Pouchkine est un bon écrivain, qu'il a fait beaucoup plus pour la gloire de la Sainte-Russie, et il m'a dit beaucoup d'autres choses de lui. Oui, c'est très bien, en effet, Varinka, très très bien. Relisez donc ce livre de nouveau, mais avec attention. Suivez mon conseil. Et en m'écoutant, vous réjouirez le cœur du pauvre vieillard que je suis. Le Seigneur vous en récompensera en ce cas, ma colombe. Il vous en récompensera sûrement. Votre ami sincère, Makar Yevushkin. Cher monsieur Makar Alexeïevitch, Fedora m'a rapporté aujourd'hui 15 roubles d'argent. Comme elle s'est réjouie, la pauvre, lorsque je lui ai donné 3 roubles sur cette somme. Je vous écris à la hâte, je suis en train de couper pour vous un gilet. C'est une étoffe merveilleuse avec de petites fleurs sur fond jaune. Je vous envoie un livre contenant des nouvelles diverses. J'en ai lu quelques-unes et je vous recommande surtout celle qui est intitulée « Le manteau ». Lisez-la. Vous insistez pour me conduire au théâtre. Oh, ne serait-ce pas trop coûteux? À moins que nous ne prenions des billets à la galerie. Il y a très longtemps que je ne suis allé au spectacle. Je ne me souviens même plus quand ce fut pour la dernière fois. Je crains seulement que cela ne revienne trop cher. Voilà ce qui me tracasse. Fedora ne fait qu'hocher la tête tout le temps. Elle assure que vous dépensez actuellement plus que vous ne gagnez. Je me rends compte moi-même, d'ailleurs. Mais que d'argent vous avez dépensé pour moi, par exemple. Prenez garde, mon ami, qu'il n'en résulte des désagréments pour vous. Fedora m'a déjà parlé de certaines rumeurs selon lesquelles vous auriez eu des discussions avec votre logeuse à cause d'un retard dans le paiement de votre loyer. Oh, je suis très inquiète pour vous. Adieu, maintenant je dois me hâter, j'ai un travail urgent, je dois changer les rubans d'un chapeau. Postscriptum, oh, il me vient une idée. Si nous allons au théâtre, je mettrai mon petit chapeau neuf et je me couvrirai les épaules d'une mantille noire. Pensez-vous que cela m'ira? ?7 juillet. Chère Madame Varvara Alexeïevna, je reviens sur ce que je vous ai raconté hier. Oui, ma petite mère, moi aussi, j'ai connu en ce temps-là ce que c'est que la déraison. Je me suis amouraché à fond de cette petite actrice. J'en suis tombé éperdument amoureux. ça ne serait rien encore. Mais le plus fort est que je ne l'avais presque pas vu, que je ne m'étais rendu compte qu'une seule fois au théâtre, j'ai trouvé le moyen avec cela de m'enticher de cette femme. Je vivais à cette époque dans un appartement où j'avais pour voisin, à peine séparé de moi par le mur, 5 jeunes gens des têtes folles, je vous le dis. Je me suis lié avec eux. C'est arrivé sans que je le veuille, bien que je me sois toujours efforcé de garder mes distances vis-à-vis d'eux. Et alors, pour ne pas rester en arrière, je me suis mis à les imiter tous. Ils m'en ont parlé, de cette actrice, ils m'en ont parlé. Chaque fois qu'il y avait une représentation au théâtre, toute la compagnie s'y rendait. Pour les choses nécessaires, ils n'avaient jamais d'argent. Ils prenaient des places à la galerie, et là, ils battaient des mains, applaudissaient à tout rompre, comme des possédés, et ils rappelaient l'actrice continuellement. Quand ils rentraient à la maison, ensuite, il n'y avait plus moyen de dormir. Ils ne faisaient que parler de cette actrice toute la nuit, l'appelant chacun par son prénom. Ah, ils en étaient tous amoureux. Ils portaient tous le même canari dans leur cœur. Et ils ont fini par me troubler l'esprit avec leur récit, pauvre de moi. Oh, j'étais encore très jeune en ce temps-là. Je ne sais même pas comment c'est arrivé que je me sois trouvé un soir au théâtre avec eux, tout au fond de la dernière galerie. Je ne pouvais apercevoir de là qu'un tout petit coin du rideau. En revanche, j'entendais tout. Cette actrice avait en effet une voix délicieuse. Un timbre clair, argentin, un vrai petit rossignol. Nous avons applaudi tous, au point que les mains nous faisaient mal, et nous avons crié l'enthousiasme. En un mot, c'est tout juste si la police ne nous a pas arrêtés. Il y en a eu même un qui s'est fait sortir. Je suis rentré chez moi, comme dans un rêve. Il ne me restait plus qu'un rouble d'argent en poche et il fallait attendre 10 bons jours encore pour toucher mon traitement. Et que pensez-vous donc que j'ai fait, ma petite mère? Le lendemain matin, avant de me rendre au bureau, je suis entré dans un magasin de parfumerie française et j'ai acheté des parfums ainsi que du savon aromatisé. J'ai dépensé pour cela mes derniers copecs. Je me demande aujourd'hui encore pourquoi j'ai acheté toutes ces choses. Vrai, je n'en sais rien moi-même. Je ne suis pas rentré chez moi pour dîner ce jour-là, et j'ai passé mon temps à me promener sous ses fenêtres. Elle habitait sur la perspective Nevski, au 3e étage. J'ai fait ensuite un saut chez moi pour prendre une petite heure de repos, et je suis retourné immédiatement sur la perspective Nevski, rien que pour me promener sous ses fenêtres. Un mois et demi durant, j'ai mené cette vie-là, courant sur les pas de l'actrice. À chaque instant, je louais des fiacres pour la suivre et je choisissais le cocher qui avait le plus d'allure. J'ai gaspillé mon argent, je me suis endetté. Et puis, un beau jour, je cessais de l'aimer. L'affaire commençait à me lasser. Voilà, ma petite mère, ce qu'une actrice peut faire d'un homme convenable. Il est vrai que j'étais jeune en ce temps-là, bien jeune encore. M.D.
8 juillet. Bien chère madame Varvara Alexeyevna, j'ai hâte de vous retourner le livre que vous m'avez prêté le 6 de ce mois, et je m'empresse de saisir l'occasion pour m'expliquer avec vous à ce sujet. C'est mal, ma petite mère, très mal de votre part, de m'avoir poussé à pareille extrémité. Permettez-moi de vous le dire, le destin de chacun et sa situation en ce monde résulte d'un décret du Tout-Puissant. À celui-ci, les épaulettes de général, à celui-là, l'humble rang de conseiller titulaire dans l'administration. Ainsi en a décidé la Providence. L'un est appelé à commander, tandis que l'autre a été créé pour obéir avec respect et sans murmurer. Tout cela est réglé d'après les aptitudes diverses des hommes. Il en est qui sont aptes à faire certaines choses, il en est qui sont inaptes, mais ont d'autres capacités en revanche. Or, les dons de chacun sont l'œuvre du Seigneur. Voici 30 ans bientôt que je sers dans l'administration. J'ai toujours rempli mes fonctions de façon irréprochable. Ma conduite a été bonne, je ne suis pas buveur, et je n'ai jamais été mêlé à des troubles politiques. En tant que citoyen, j'ai, je le reconnais, mes défauts, que je ne cache point, mais je possède aussi des qualités. Je jouis de l'estime de mes supérieurs, et son excellence elle-même est satisfaite de moi. Encore qu'elle ne m'ait point donné jusqu'ici de témoignage particulier de bienveillance, je sais qu'elle est contente de moi. Mon écriture est nette, assez élégante, pas trop grosse, mais pas trop menue non plus, assez proche de la cursive et toujours lisible, toujours satisfaisante. Il n'y a guère dans notre service qu'Ivan Prokofievitch et encore qui possède une écriture semblable. Mes cheveux sont devenus gris à la tâche. Je n'ai pas de péché sérieux à me reprocher. Oh, certes, de petits péchés, j'en ai commis, mais qui donc ne connaît pas de petits péchés parfois? Par contre, je n'ai jamais été soupçonné de quelque méfait grave ou de quelque crime, comme la violation d'un règlement, par exemple, ou une atteinte à la tranquillité publique. On n'a jamais eu à le reprocher. Ça n'a pas existé dans ma vie. J'ai même failli être proposé pour la croix, et c'est tout dire. Tout cela, à la vérité, vous auriez dû le savoir, ma petite mère, et il aurait dû le savoir également. Du moment qu'il se mettait en tête de me dépeindre, il aurait dû reconnaître la vérité entière. « Non, ma petite mère, non, je ne serais pas attendu à cela de votre part, non, Varinka. Pas de votre part, en tout cas, pas de votre part. » Comment ? On ne pourra plus vivre après cela dans son coin tranquille, quel que soit ce coin d'ailleurs. Plus permis de vivre sans trouble et l'eau de son voisin, selon le proverbe, sans faire de mal à personne. Craignant Dieu et veillant sur soi-même, afin qu'on ne me touche pas non plus, afin qu'on ne pénètre pas dans mon réduit, pour fourrer le nez dans ma vie intime. Savoir quel est mon petit train d'existence domestique, si je possède par exemple un bon gilet, si j'ai tout ce qu'il faut en fait de linge de corps, si j'ai des souliers, s'ils sont convenablement ressemelés, si je mange à ma faim, et comment je me nourris, et ce que je bois, et quels sont les documents que je copie. Mais quel mal y a-t-il donc, ma petite mère, à ce que je traverse parfois la chaussée sur la pointe des pieds, là où elle est mal pavée, afin de ne pas user mes chaussures? Quel besoin a-t-on donc d'écrire de son prochain qu'il lui arrive de connaître des jours de misère et de ne pas prendre de thé? Comme s'il était indispensable que tout le monde boive du thé. Est-ce que je regarde, moi, dans la bouche de chacun pour savoir ce qu'il se met dans le ventre? Envers qui donc me suis-je comporté ainsi? Qui ai-je offensé de cette façon? Non, ma petite mère, c'est mal de blesser un homme quand il ne vous a rien fait. Tenez, Barbara Alexeyevna, pour prendre un exemple. On remplit sa tâche chaque jour avec zèle, avec dévouement, et les chefs sont contents, ils nous respectent. Oh, quoi qu'ils puissent dire, ils nous respectent, c'est certain. Et voici que quelqu'un se met à écrire à ma barbe, pour ainsi dire, un pamphlet, une pasquinade sur moi, sans aucun motif visible, sans que je lui en ai donné prétexte, le moins du monde. Certes, il peut m'arriver à moi aussi de me faire un vêtement neuf ou d'acheter des chaussures, et de m'en réjouir au point de ne pas endormir une nuit. De m'en réjouir, car c'est vraiment si agréable de mettre son pied dans une chaussure élégante et neuve, c'est de la volupté. C'est un sentiment que j'ai éprouvé, je l'avoue, et la description est exacte sur ce point. Je m'étonne pourtant que Fédor Fiodorovitch, notre chef, ait laissé passer par mégarde ce livre où il est après tout pris à partie également. C'est vrai que c'est encore un jeune fonctionnaire et qu'il aime, à l'occasion, élever la voix. Et pourquoi donc ne crierait-il pas un peu? Pourquoi n'admonestrait-il pas vertement l'un de nous quand cela devient nécessaire? J'admets qu'il lui arrive de s'emporter comme ça, sans raison apparente. C'est indispensable pour le bon ton, pour l'éducation morale des gens. Il leur faut inspirer un respect salutaire. Car, je le dis entre nous, Varinka, nous autres, on ne fait rien de bon sans crainte. Chacun ne songe qu'à ses avantages, à son avancement, voudrait être inscrit ici, cité là, et quant au travail, on cherche à s'en décharger le plus possible. Étant donné d'autre part que tous les fonctionnaires n'ont pas le même rang, qu'il en est de plus élevé que d'autres, il est naturel que le ton de la rodomontade doive varier de l'un à l'autre, selon le rang de chacun, c'est dans l'ordre des choses. C'est ainsi que ce monde est construit, ma petite mère. La vie sociale repose sur les allures d'autorité que nous affichons les uns envers les autres et sur la façon dont nous admonestons réciproquement. Sans ces précautions, le monde ne pourrait pas exister et il n'y aurait d'ordre nulle part. Je m'étonne donc sincèrement que Fiodor Fiodorovitch ait pu laisser passer par inadvertance un pamphlet aussi blessant. Et quel diable l'a donc poussé à écrire cet auteur? À quoi cela sert-il, je vous le demande? L'un des lecteurs va-t-il par hasard m'envoyer un manteau neuf après avoir lu ce récit? M'achètera-t-il peut-être de nouvelles chaussures? Non, Varinka, les gens liront l'histoire et voudront simplement connaître la suite. On se cache de son mieux, on se fait petit, on s'efforce de passer inaperçu. On craint parfois de mettre le nez dehors parce qu'on n'aime pas les jugements d'autrui, parce qu'on a peur d'être tourné en ridicule pour un rien, et voilà que toute notre vie civique ou familiale se trouve étalée sans vergogne dans la littérature. Tout y est imprimé, dévoilé, jugé et ridiculisé. On n'osera plus sortir dans la rue maintenant, car tout y est décrit avec tant d'exactitude qu'on reconnaîtra notre homme à sa démarche déjà. Passe encore si l'auteur avait racheté son œuvre en l'atténuant vers la fin, en ajoutant quelque chose pour adoucir son histoire. À l'endroit, par exemple, où on a bombardé le malheureux avec des paperasses, l'auteur aurait pu dire que cet homme avait été vertueux, qu'il fut un bon citoyen et qu'il ne méritait pas d'être traité de cette façon par ses collègues, car il avait toujours respecté les gens plus âgés que lui. Et ici, l'auteur aurait pu glisser un exemple édifiant, qu'il n'avait fait de mal à personne, qu'il crut en Dieu et qu'il mourut. Oh, si l'auteur tient absolument à le faire mourir, pleurer et regretter de tous. Mieux aurait encore valu ne pas le laisser mourir, ce malheureux, mais faire en sorte qu'on retrouve son manteau, ou que Fiodor Fiodorovitch... Oh, mais non, qu'est-ce que je dis, non? Que le général, ayant appris les vertus de ce subalterne, le fit venir dans son bureau pour lui annoncer une promotion, grade, et lui accorder un bon traitement. De cette façon, tout aurait été sauvé, voyez-vous. Les méchants auraient été punis, et la vertu se serait trouvée récompensée. Quant aux vilains collègues de chancellerie, ils en auraient été pour leurs frais et seraient devenus gros gens comme devant. Moi, par exemple, j'aurais terminé l'histoire de cette manière. Qu'y a-t-il de bon dans ce récit? Qu'y a-t-il d'extraordinaire? L'auteur n'a fait que raconter un fait divers banal. Il a fourni un exemple emprunté à la vie quotidienne. Comment avez-vous pu songer, ma très chère, à m'envoyer un livre pareil? Mais c'est un ouvrage mal intentionné, Varinka. Et puis c'est une histoire invraisemblable, car des fonctionnaires de ce genre, cela n'existe pas. Non, non, je me plaindrai aux autorités, Varinka, je me plaindrai, c'est décidé. Votre serviteur dévoué, Makar Dievouchkine. 27 juillet. Cher monsieur Makar Alexeyevitch, les derniers événements ainsi que vos lettres m'ont effrayé, m'ont stupéfaite et consterné. Mais j'ai fini par tout comprendre en apprenant ce que Fedora m'a rapporté. Mais pourquoi donc avez-vous désespéré à ce point? Pourquoi vous êtes-vous jeté soudain dans l'abîme où vous débattez maintenant? Mais dites-le-moi, Makar Alexeyevitch. Vos explications ne m'ont nullement satisfaite. N'avais-je pas eu raison, reconnaissez-le, d'insister pour accepter l'emploi avantageux qu'on m'offrait? En outre, ma dernière aventure commence à m'inquiéter pour de bon. L'amour que vous me portiez, me dites-vous, vous obligeait à vous cacher de moi. Je n'avais pas été sans songer, certes, que je vous devais beaucoup, hein, autant encore, vous m'assuriez ne dépenser pour moi que quelques économies, mises en réserve en banque à toute éventualité. Mais je sais aujourd'hui que vous ne disposez d'aucune réserve, qu'ayant été informé par hasard de ma misère, vous vous en êtes ému et avez décidé de m'aider en dépensant l'argent de votre traitement, que vous vous étiez fait verser l'avance pour plusieurs mois. Je sais que vous êtes allé ensuite jusqu'à vendre votre habit lorsque je suis tombé malade. Et la découverte de la vérité m'a mise dans une situation si pénible que je me demande maintenant comment je puis accepter tout cela et ce qu'il convient d'en penser. Oh, Makar Alexeyevitch, pourquoi ne vous en êtes-vous pas tenu à vos premiers bienfaits, inspirés uniquement par la compassion et les sentiments de parenté, au lieu de dépenser l'argent pour des choses inutiles, ainsi que vous l'avez fait par la suite? Vous avez trahi notre amitié, Makar Alexeyevitch, en n'étant pas franc envers moi. Aujourd'hui, où je constate que vos derniers copecs ont passé en achat de toilettes pour moi, en bonbons, en promenades, en billets de théâtre et en cadeaux de livres, j'expie chèrement ces plaisirs par le remords que je ressens de mon impardonnable légèreté. Car j'accepte de vous tout cela sans m'inquiéter de votre situation à vous. Tout ce que vous avez entrepris dans l'intention de me procurer de la joie se mue maintenant en douleur pour moi, et il n'en reste que des regrets stériles. J'avais remarqué votre mélancolie depuis un certain temps, et bien que je me fusse attendu anxieusement à quelque événement pénible, ce qui est arrivé ne me serait jamais venu à l'esprit. Comment, vous, Makar Alexeyevitch, vous avez pu vous abandonner à un tel désespoir? Mais que penseront de vous désormais, que diront de vous demain tous ceux qui vous connaissent? Vous, que tout le monde et moi-même respectaient pour votre bonté de cœur, votre modestie et votre sagesse, vous avez chu brusquement dans ce vice exécrable qu'on ne vous connaissait point jusqu'ici, à ce que je crois. Oh, dans quel état j'ai été plongé en apprenant de la bouche de Fedora qu'on vous a ramassé ivre dans la rue et que la police vous a ramené à votre domicile. J'en fus frappé de stupeur, j'en demeurais stupide au premier instant, bien que je m'attendisse à quelque chose d'exceptionnel, car vous aviez disparu de chez vous depuis 4 jours. Avez-vous réfléchi, Makar Alexeyevitch, à ce que diront vos chefs lorsqu'ils apprendront la cause vraie de votre absence? Vous me dites que tout le monde se moque de vous maintenant, que tous vos voisins sont au courant désormais de notre amitié et qu'ils ne m'oublient pas, moi non plus, dans leurs plaisanteries. Ne vous faites point de soucis à ce sujet, Makar Alexeyevitch, et calmez-vous au nom du ciel. Je suis très inquiète également à cause de cet incident que vous avez eu avec les officiers, car j'en ai eu vent vaguement. Oh, expliquez-moi, je vous prie, ce que tout cela signifie. Vous m'écrivez que vous n'osiez pas vous ouvrir à moi, que vous redoutiez de perdre mon amitié par vos aveux,
que vous étiez au désespoir de ne pas savoir comment m'aider pendant ma maladie et que vous avez vendu tout ce que vous possédiez pour m'éviter d'aller à l'hôpital. Vous me dites que vous avez emprunté de tous les côtés et que vous avez journellement des discussions avec votre logeuse. Mais en me cachant la vérité, vous avez choisi la pire des solutions. De toute façon, je sais tout maintenant. Vous ne vouliez pas m'obliger à reconnaître que j'étais cause de votre malheureuse situation présente, mais vous m'avez deux fois plus de chagrin encore par votre conduite actuelle. Oh, tout cela me bouleverse, Makar Alexeyevitch. Oh, mon ami, le malheur est une maladie contagieuse. Les malheureux et les pauvres devraient s'éviter les uns les autres. Ils devraient fuir tout contact entre eux, afin de ne pas accroître leurs maux en se contaminant mutuellement. Je vous ai amené des épreuves que vous n'aviez jamais connues auparavant, dans votre existence modeste et solitaire. Mais cela me torture et me tue de le constater aujourd'hui. Écrivez-moi franchement toute la vérité. Dites-moi ce qui vous est arrivé et comment vous avez pu vous décider à un tel acte. Rassurez-moi, si vous le pouvez. Ce n'est point l'amour-propre ou l'égoïsme qui m'incite à vous parler en cet instant de ma tranquillité, mais je suis amené par mon amitié pour vous, par l'affection que je vous ai vouée et que rien ne pourra jamais effacer de mon cœur. Adieu. J'attends votre réponse. Vous m'avez mal jugé, Makar Alexeyevitch. Votre affectueusement dévouée, Varvara Dobrostilova.
Mon inestimable Varvara Alexeyevna. Soit, du moment que tout est fini maintenant et que les choses redeviennent peu à peu à leur état précédent, je vous dirai, ma petite mère, je vous dirai ceci. Vous vous inquiétez de ce que l'on pourra penser à mon sujet, à quoi je m'empresse de vous déclarer, Varvara Alexeyevna, que ma réputation n'est plus chère que tout au monde. Aussi crois-je devoir, en portant à votre connaissance mes malheurs ainsi que tous ces désordres, vous informer en même temps que personne parmi mes chefs n'est au courant de ce qui s'est passé et ne l'apprendra jamais, en sorte qu'ils continueront à me témoigner la même estime qu'auparavant. Il n'y a qu'un point qui me tourmente, je redoute les cancans. Chez nous, à la maison, notre logeuse crie continuellement. Il est vrai que maintenant, depuis que je lui ai payé une partie de ma dette grâce à vous 10 roubles, elle se borne à grogner et rien de plus. Pour ce qui est des locataires, il n'y a rien de particulier à en dire. Ils se conduisent convenablement. Il faut seulement éviter de leur emprunter de l'argent. Ils sont assez très convenables, eux aussi. En conclusion de ces explications, je désire que vous sachiez, ma petite mère, que votre estime est ce que je possède de plus précieux au monde. Et c'est ce qui me console à cette heure dans les désordres passagers de ma vie. Dieu merci, le plus terrible est surmonté. Le premier coup, les premières convulsions de ce drame ont passé, et vous avez pu les supporter sans me condamner comme un ami traître à notre amitié, ni comme un égoïste, parce que je m'efforçais de vous conserver auprès de moi et vous trompais, n'ayant pas la force de me séparer de vous que j'aime, et en qui je vois mon petit ange. Oh, je me suis remis au travail avec zèle, et j'accomplis ma tâche quotidienne de façon consciencieuse. Eustache Ivanovitch n'a même pas dit un mot lorsque j'ai passé hier devant lui. Je ne vous cacherai pas, ma petite mère, que mes dettes me tourmentent et me tuent, et aussi le mauvais état de ma garde-robe. Tout cela n'est rien, je le répète, et je vous supplie, sur ce point également, de ne pas désespérer, ma petite mère. Vous m'avez envoyé un demi-rouble encore. Varinka, ce demi-rouble m'a transpercé le cœur. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui. Voilà ce qui en est advenu. C'est-à-dire que ce n'est plus moi, vieil imbécile que je suis, qui vous vient en aide, mon doux ange. Mais c'est vous, ma pauvre petite orpheline, qui venez à mon secours. » Il faut savoir gré à Fedora d'avoir pu se procurer de l'argent. Pour l'instant, je n'ai aucune espérance de ce côté-ci, ma petite mère. Je ne toucherai rien. Et si quelque perspective favorable devait surgir, je ne manquerai pas de vous le faire savoir en détail. Mais ce sont les cancans, les odieux cancans, qui me tourmentent par-dessus tout. Adieu, mon angelet. J'embrasse votre main mignonne et je vous supplie de vous rétablir. Je ne vous écris pas longuement en ce moment parce que je dois me rendre au travail, car je tiens à faire preuve de zèle et de dévouement pour effacer ma faute et faire oublier mon absence au service. Je renvoie ce soir la suite de mes explications au sujet de tous ces événements, ainsi que de l'incident avec les officiers. Votre ami, qui vous respecte et vous aime profondément, Makarie Vushkin. 28 juillet. Ma petite mère Varinka. Oh, Varinka, Varinka, c'est sur vous que retombe le péché maintenant, et c'est sur votre conscience qu'il restera. Vous avez achevé, par votre lettre, de me mettre la cervelle sans dessus-dessous. Vous m'avez jeté dans la perplexité, et c'est maintenant seulement que, plongeant à tête reposée jusqu'au plus profond de mon cœur, je me rends compte d'avoir eu raison, entièrement raison. Oh, ce n'est pas de ma débauche que je parle ici. Oh, diable, cette débauche, ma petite mère, et n'en parlons plus. Mais du fait que je vous aime et que ce ne fut pas du tout déraisonnable de ma part, de vous aimer, pas déraisonnable du tout. Je dois vous dire, ma petite mère, que vous ne savez rien. Car si vous pouviez savoir pourquoi tout cela est arrivé et pourquoi il est juste que je vous aime, vous parleriez tout autrement. Toutes ces choses raisonnables que vous me dites, vous ne les pensez pas. Vous l'écrivez, mais c'est tout différent dans votre cœur, j'en ai la certitude. Ma petite mère, je ne sais plus très bien moi-même. Elle ne me souvient pas clairement de cette histoire que j'ai eue avec les officiers. Il faut que vous sachiez, mon angelet, que j'avais passé auparavant par une période extrêmement agitée. Imaginez que depuis un mois entier, je ne tenais plus que par un fil, pour ainsi dire. C'était une situation qui sentait la catastrophe imminente. Je me cachais de vous et je m'efforçais même de passer inaperçu chez moi. Mais ma logeuse a fait du scandale et s'est mise à crier. Cela n'aurait pas eu d'importance, d'ailleurs. Qu'elle crie tant qu'elle veut, cette vilaine femme, mais il y a d'abord que cela me fait honte. Et il y a ensuite qu'elle a appris, oh Dieu sait comment, l'existence de notre amitié. Alors elle s'est mise à crier par toute la maison au sujet de notre liaison, des choses tellement abominables que j'en ai été glacé d'effroi et me suis bouché les oreilles. Il s'est trouvé malheureusement que les autres locataires n'ont pas bouché leurs oreilles comme moi et les ont au contraire ouvertes toutes grandes. Si bien qu'aujourd'hui, je ne sais plus où me cacher. C'est tout cela, mon doux ange, c'est cette affreuse accumulation de malheurs qui m'a mené à bout et qui acheva de me briser définitivement. Voici que tout à coup j'apprends de Féodora des choses étranges. Qu'un visiteur indigne se serait présenté chez vous et vous aurait offensé par une proposition infâme. Il vous a blessé, blessé au plus profond de vous-même, je le sais, ma petite mère, car j'en juge par moi qui me sens blessé de cette façon. C'est à ce moment, mon doux ange, c'est à ce moment exactement que je perdis pied, c'est là que j'ai dévié et que j'ai roulé dans l'abîme complètement. Je me suis précipité hors de la maison, Varinka, dans une sorte de fureur inouïe. Je voulais me rendre chez cet individu abominable, chez ce pécheur sans vergogne. Je ne savais même pas exactement ce que j'allais faire, parce que je ne peux pas supporter, mon petit ange, qu'on vous offense. Oh, que c'était triste! Et je me sentais si misérable. Justement, il pleuvait ce jour-là, partout de la boue, une atmosphère morne et lugubre. Déjà, je songeais à rentrer, renonçant à mon projet. C'est à ce moment que je suis tombé, ma petite mère. J'ai rencontré Émile, c'est-à-dire Emilia Illich, un fonctionnaire de notre administration, ou plutôt un ancien fonctionnaire, car il ne l'est plus maintenant, on l'a exclu du service. J'ignore ce qu'il fait actuellement, il se démène pour vivre. Nous nous sommes rencontrés, nous avons fait chemin ensemble. Je l'ai suivi ensuite, voilà comment tout ça est arrivé. Nous, hommes, que vous importe Varinka, quel plaisir pouvez-vous avoir à lire le récit des malheurs d'un ami, à connaître les avatars qu'il a subis et les tentations par lesquelles il a passé. Le troisième jour, vers le soir, ce fut cet Émilien qui m'a poussé, qui m'a excité. Je me suis rendu chez cet individu, chez cet officier, donc. J'avais obtenu son adresse auprès du portier de notre maison. Pour dire la vérité, il y avait déjà longtemps que je l'avais noté, ce gaillard. Je le surveillais du temps encore où il logeait dans notre appartement, enfin bref. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai commis une inconvenance, car je n'étais pas dans mon état normal lorsqu'on lui annonça ma visite. Je dois dire, Varinka, pour être sincère, que je ne me rappelle pas exactement ce qui s'est passé alors. Je me souviens seulement qu'il y avait beaucoup de monde chez lui, c'était plein d'officiers, à moi que j'ai vu double en cet instant, Dieu sait. J'ignore aussi ce que je lui ai dit, mais je me souviens que j'ai parlé longuement, emporté par une noble indignation. C'est là, eh oui, c'est là qu'on m'a sorti, qu'on m'a jeté au bas de l'escalier, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas exactement jeté, mais poussé simplement. Oh, vous savez le reste, Varinka, et dans quelles conditions je suis rentré chez moi. Voilà, c'est tout. Certes, je me suis abaissé, mon prestige en a souffert, mais personne ne le sait, personne d'étranger à nous, en dehors de vous, personne n'est au courant. Alors c'est comme si rien n'était arrivé. Après tout, c'est peut-être ainsi. Qu'en pensez-vous, Varinka? Tout ce que je sais de certain, c'est que l'an passé, dans notre service, Hyacinthe Osipovitch s'est attaqué de la même façon à la personne de Pierre Pietrovitch. Seulement, il a agi en secret, en cachette, à l'insu de tous. Il l'a fait venir dans la chambre du garde, oh, j'ai tout observé par une fente de la porte. Là, il s'est comporté comme il convient en pareil cas, mais d'une façon noble et digne, car personne ne l'a vu en dehors de moi. Or, moi, ce n'était rien, enfin, je veux dire que je ne l'ai raconté à personne. Après cet incident, Pierre Pietrovitch et Hyacinthe Osipovitch n'ont fait semblant de rien. Pierre Pietrovitch est, sachez-le, un homme fier et qui tient beaucoup à sa réputation. Alors, il n'a rien dit, si bien qu'il continue actuellement à se saluer et à se serrer les mains en public. Je ne nie pas, Varinka, je ne serai même pas de nier que je suis tombé profondément, je ne le conteste pas. Et ce qui est le pire, j'ai chu dans ma propre estime. Sans doute étais-je prédestiné à ce malheur depuis ma naissance. C'était le destin, très certainement. Et nul n'échappe à son destin en ce monde, vous le savez bien. Voilà, Varinka, voilà l'explication complète et le récit détaillé de mes malheurs et de mes avatars. Tout ça, ce sont des choses qu'on pourrait ne pas lire. À quoi bon? Car cela revient au même maintenant. Je me sens assez mal, ma petite mère, et j'ai perdu tout enjouement, toute joie de l'âme et du cœur. Aussi, je me borne à vous assurer de mon attachement, de mon amour et de mon respect. Et je demeure, ma très honorée, ma très chère Lvovna Alexeyevna, votre très humble serviteur, Makar Dievushkin. 29 juillet. Cher monsieur Makar Alexeyevitch, j'ai lu vos lettres et j'ai failli en pousser une exclamation de surprise. Voyons, mon ami, ou bien vous me cachez quelque chose et ne m'avez raconté qu'une partie seulement de tous ces désagréments que vous avez eus, ou bien alors, Makar Alexeyevitch, pour dire la vérité, vos lettres reflètent encore un certain trouble de l'âme. Oh, venez me voir, pour l'amour de Dieu, venez me rendre visite aujourd'hui même. Écoutez-moi, venez sans façon pour le dîner, savez-vous? J'ignore complètement comment vous vivez dans ce logis et si vous vous en êtes entendu avec votre logeuse, pour finir. Vous ne m'écrivez rien à ce sujet, comme si vous désiriez passer intentionnellement cette question sous silence. Allez, pour l'instant, au revoir, mon ami. Venez nous voir aujourd'hui, venez absolument. Le mieux serait d'ailleurs que vous dîniez tous les jours avec nous. Fedora fait très bien la cuisine. Adieu. Votre Varvara Dobrosyolova.